Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il revoir l'enseignement de la guerre d'Algérie ? Certains ayant vu une illustration du macronisme appliquée à la mémoire de la guerre d'Algérie. Quelques jours après avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin et admis le caractère systémique du recours à la torture, Emmanuel Macron a choisi vendredi de promouvoir d'anciens combattants harkis dans les ordres de la Légion d'honneur et du mérite. Un geste qui pourrait être suivi par d'autres, peut-être dès demain à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis. Depuis cet été, le chef de l'État dispose d'une batterie de propositions sur ce sujet, sous la forme d'un rapport rédigé par le préfet Dominique Sault. Parmi celles-ci, le fait de rendre obligatoire l'enseignement de la guerre d'Algérie au collège et au lycée, ce qui revient à dire que cet enseignement n'est aujourd'hui que facultatif dans le secondaire. Alors à vrai dire, la guerre d'Algérie fait déjà et depuis longtemps l'objet d'un examen dans le cadre scolaire. Au collège, les manuels d'histoire du début des années 70 s'y consacrent même plusieurs pages. Mais les décisions politiques, comme celles prises dernièrement, rebattent sans doute les cartes dans la façon d'enseigner cette période, d'autant que si le temps a fait son œuvre, il n'a pas dissipé, loin s'en faut, les enjeux mémoriels. Alors faut-il revoir l'enseignement de la guerre d'Algérie ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de trois invités. Raphaël Branche, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la guerre d'Algérie, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen et vous avez notamment publié, c'était en 2005, La guerre d'Algérie, une histoire apaisée. Il faut entendre le point d'interrogation. Pour discuter avec vous, Yanis Roder, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur agrégé d'histoire, vous enseignez dans un collège à Saint-Denis, vous êtes responsable des formations au mémorial de la Shoah et vous avez publié en cette rentrée « Allons enfants, la République vous appelle » aux éditions Odile Jacob. Et puis notre troisième invité est romancière et dramaturge, il s'agit d'Alice Zeniter, bonsoir. Votre dernier roman en date, vous l'avez publié l'an dernier, c'est « L'art de perdre » qui vous a valu notamment le prix Goncourt des lycéens. C'est un roman qui raconte l'histoire sur trois générations d'une famille, je ne sais pas comment il faut dire d'ailleurs, si c'est une famille franco-algérienne, une famille de harkis, ça fait d'ailleurs partie justement des enjeux
hein, de ce roman. La question épineuse de la dénomination, oui.
Il y a trois personnages principaux. Ali, le grand-père, Hamid, le père, Naïma, la fille, qui se rend compte d'ailleurs au début de ce roman qu'elle ne sait pas grand-chose justement sur l'Algérie, que le peu qu'elle sait, elle l'a puisé dans Wikipédia et vous écrivez ceci. Quand on est réduit à chercher sur Wikipédia des renseignements sur un pays dont on est censé être originaire, c'est peut-être qu'il y a un problème puisque son grand-père et son père viennent d'Algérie. Est-ce que vous-même, vous êtes parti d'une feuille absolument blanche pour écrire votre livre ?
Absolument blanche, non, mais j'avais vraiment des récits, des bribes de récits, des bribes d'un récit brisé. Et moi, j'ai grandi à chaque fois que j'essayais de savoir quelque chose, en m'entendant opposer cette phrase qui est un oxymore, qui est « je ne m'en souviens pas, je ne veux pas en parler ». Et donc, c'est vrai qu'il a fallu que je reparte de peu de choses et qu'il a fallu notamment les travaux des historiens et des historiennes. Et Raphaël Branche en a fait partie, mais... J'ai eu besoin de prendre ailleurs que dans la famille et dans la sphère de l'intime les renseignements qui ne m'avaient pas été transmis.
Et Yanis Roder, vous qui êtes confronté dans vos classes à des élèves qui peuvent être d'origine algérienne, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont une connaissance importante de leur pays d'origine? Parce que à la fois dans votre livre, vous dites qu'il y a souvent des revendications, c'est-à-dire qu'ils se définissent même en fonction de l'origine de leurs grands-parents ou de leurs parents. Pour autant, est-ce qu'ils en connaissent un peu l'histoire?
Non, en réalité, effectivement, hein, j'explique bien dans mon livre qu'ils se définissent en termes d'identité d'abord par le pays d'origine des parents ou des grands-parents. Et donc, pour ceux qui sont d'origine algérienne, ils se disent algériens. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'ils connaissent l'histoire non seulement de leur pays, mais également de la colonisation et encore moins de la décolonisation. Ils en ont des représentations, ça c'est sûr. Ils en ont une connaissance très diffuse en réalité, mais c'est vrai pour tous les sujets. Ce n'est pas lié à la guerre d'Algérie. Alors on pourrait se dire, effectivement, ils sont d'origine algérienne, ils pourraient avoir une appétence peut-être plus importante pour le sujet. Ils l'ont d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher à en savoir plus par eux-mêmes. En attendant, il y a une véritable attente. Vous savez, il y a plusieurs sujets qui, dans l'année, sont attendus. Il y a Adolf Hitler, Ça, c'est important, voilà. Il y a la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, et il y a la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie est très attendue.
Alors, on va justement avoir l'occasion de voir comment vous répondez, vous, en tant qu'enseignant, à cette attente. Raphaël Branche, Yannis Roder nous disait, voilà, c'est sur tous les sujets que c'est comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs, que sur la guerre d'Algérie, c'est aussi un petit peu la même chose dans toutes les familles, peut-être, qui sont concernées directement ou indirectement par ce moment? Parce que, il n'y a pas que les harkis, bien sûr, il n'y a pas que les immigrés d'origine algérienne, il n'y a pas que les rapatriés, il y a aussi, par exemple, les enfants d'appelés du contingent. Ça couvre énormément de monde, finalement, cette guerre d'Algérie. Et comment se transmet cette mémoire?
Donc là, on sort du cadre scolaire. Ouais, d'accord.
On va y arriver très vite au cadre scolaire.
Non, je peux pas répondre à votre question. Je suis en train de travailler sur ça en ce moment, donc j'espère que dans 2-3 ans, je reviendrai vous en parler. Non, mais en revanche, là où elle dit quelque chose d'important, c'est que le nombre de Français ou d'habitants de France qui ont été concernés par l'histoire coloniale française est redoutablement important. Et pour la guerre d'Algérie, ça touche une autre dimension que simplement l'histoire coloniale, puisqu'il s'agit d'une guerre. Donc c'est des gens qui sont allés se battre, qui ont éventuellement là-bas commis un certain nombre de violences auxquelles ils n'étaient pas préparés et dont ils n'ont pas pu parler à leur retour. Mais juste, je voudrais rebondir sur, vous avez dit, est-ce qu'ils en connaissent l'histoire? Comme s'il y avait une histoire nationale, en réalité. Les Algériens, qui connaissent l'histoire de l'Algérie, les Français, qui connaissent l'histoire de France. Précisément, si on enseigne, on peut aussi enseigner autrement qu'une histoire nationale. Et un des enjeux, sans doute, ça serait de parler de cette histoire autrement et en englobant les choses de manière plus large et peut-être de dépasser le franco-algérien ou le français.
Alors, en parler autrement, ça suppose déjà que l'on en parle, ce qui est sans doute le cas à l'école et depuis déjà quelques années. Mais pour autant, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Alors là, je vais me référer sans doute à plusieurs reprises à votre roman, Alice Zeniter, hein, L'art de perdre. Mais il y a notamment une scène qui se passe dans un camp où sont regroupés des harkis et il y a de jeunes enfants qui sont scolarisés à qui on demande déjà de se présenter. Et certains se présentent comme Kabyle. Et puis il y en a un qui dit « Moi, je m'appelle Kader, je viens de l'Algérie française. » Et il y a l'instituteur qui lui dit « Non, Kader, ça n'existe plus l'Algérie française. » La phrase fait écho à certaines déclarations de leurs parents. « Ne plus penser à l'Algérie, oublier l'Algérie. » Il y a eu un moment où il fallait oublier l'Algérie, effacer totalement cette histoire.
Oui, enfin, c'est quelque chose, là, en l'occurrence, la phrase « oublier l'Algérie », c'est une phrase que j'ai reprise des archives de l'INA, donc au moment où ils filment l'arrivée. Et donc, quand vous dites « harkis », moi, je dirais de ceux qu'on a appelés les harkis, en généralisant un terme qui ne s'appliquait qu'à une infime partie de la population dont on parle. Et donc, à chaque fois que je
vais... Et de manière temporaire, en plus.
Voilà, à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais essayer de mettre des guillemets sonores dans ma voix pour... parce que on l'utilise par raccourci, je peux pas à chaque fois préciser, mais c'est un terme qu'on ne devrait pas utiliser en fait ou pas aussi largement. Et donc voilà, il y a cet homme qui déclare à son arrivée dans le camp qu'il faut oublier l'Algérie. Et cette image m'a marqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement cet homme dit ça parce que il arrive d'un pays en guerre, il arrive d'un climat d'extrême violence qu'il a fui, et donc il y a cette volonté de laisser derrière lui ces souffrances-là, mais aussi il arrive dans un contexte politique où on a accepté ce qu'on appelait les harkis sur le sol français, et accepté est aussi peut-être un bien grand mot, mais au nom d'un récit, au nom d'une fiction qui était que ces gens pouvaient arriver là parce que ils faisaient preuve d'un amour sans faille pour la France. Et donc à partir de là, eux n'ont pas le droit de revendiquer un attachement à l'Algérie, puisque c'est leur amour sans faille pour la France qui leur vaut un droit à l'accueil, un droit à ces camps, un droit à ces structures d'hébergement qui vont essaimer dans toute la France.
Est-ce qu'il y a eu cette tentation dans le monde scolaire, dans le monde de l'éducation, Raphaël Branche, d'oublier l'Algérie, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'enseignement assez vite après la fin de la guerre, qui ne s'appellera la guerre qu'à partir de 1998 officiellement? C'est le Parlement qui va adopter
même.
99,
donc
oui, pardon.
Encore plus tard. Mais en fait, il ne faut pas tout voir à travers le prisme de l'Algérie. Hein. Je pense que l'état de l'enseignement de l'histoire dans les années 60 en France fait que, effectivement, on regardait pas l'histoire très proche et très contemporaine. Donc, il a fallu attendre, mais pas si longtemps que ça. Hein. Les travaux de, par exemple, le livre récent de Laurence de Kock montre très bien que on enseigne le fait colonial. Il y a dans déjà dès les années 70, dans les manuels, on trouve des choses. Et puis, pour la guerre d'Algérie, si on parle d'elle, elle rentre au programme, et ça on le sait depuis longtemps, en 1983, au programme des terminales. Donc, il y a un enjeu là, parce que la terminale, c'est le bac. Donc, en fait, il faut faire tout le programme cette année-là. Il faut vraiment, vraiment le faire. Et donc, le sujet tombe. Hein, donc, c'est pas simplement pour décorer. Donc, il y a une présence assez ancienne. Donc, oublier l'Algérie, peut-être. L'Algérie coloniale, peut-être. La guerre, certainement un petit peu moins, en fait.
Alors c'est vrai que le livre de Laurence de Kock est intéressant. De ce point de vue, je vais donner d'ailleurs son titre, Dans la classe de l'homme blanc. Ça vient d'être publié aux presses universitaires de Lyon, parce que effectivement, elle explique bien qu'au début des années 70, c'est quelque chose qui est présent, alors qui n'est pas présent. Enfin, tout le monde peut-être n'est pas présent dans ce récit de la guerre d'Algérie, mais que ça existe quand même. Vous, Yannis Roder, je ne sais pas depuis combien d'années vous exercez ce beau métier de professeur d'histoire.
Depuis 20 ans.
En collège. La guerre d'Algérie, vous l'abordez chaque année dans votre programme en fonction des classes.
Et alors, il faut savoir que dans le programme actuel, l'étude de la guerre de décolonisation, des guerres de décolonisation, de la guerre d'Algérie en l'occurrence, est facultative. Enfin, plutôt, elle est au choix. Vous pouvez étudier l'indépendance de l'Inde, l'indépendance de l'Afrique occidentale française ou l'indépendance de l'Algérie.
En troisième,
en classe de troisième. En terminale, vous avez les mémoires qui sont au choix, donc les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et les mémoires de la guerre d'Algérie. Il faut savoir que 75% des enseignants, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite là-dessus, choisissent les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que 25% uniquement vont traiter les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc ça veut dire que c'est encore un enseignement finalement facultatif. Et c'est au bon vouloir de l'enseignant qui va vouloir se confronter à cette question passionnante et qui est attendue par les élèves. C'est pour cela que le fait qu'elle soit facultative, j'avoue que je ne le comprends pas. Je comprends bien qu'il faille peut-être savoir voir autre chose que la décolonisation vue par la guerre d'Algérie. Mais néanmoins, la question est tellement présente dans la société française, tellement présente dans les esprits, que ça me semble, moi, assez ahurissant que cette histoire-là soit aujourd'hui facultative.
Partagez ce point de vue, Alice Zeniter. Est-ce que vous avez, vous, mémoire comme ancienne collégienne ou ancienne lycéenne, d'avoir eu des cours sur la guerre d'Algérie?
Je me souviens en avoir eu au lycée, mais je me souviens que c'était très bref. Et c'est ça. Et en disant ça, évidemment, je ne jette nullement la pierre aux enseignants qui doivent faire avec un programme qui limite les unités de temps consacrées à des sujets. Mais pas. Enfin, il y a tellement de choses. Justement, quand moi je me suis plongée dans l'apprentissage de l'histoire coloniale et de la décolonisation de l'Algérie, je me disais mais c'est ça que j'aurais voulu voir, entendre, regarder. Donc notamment, je pense au film de Rothman, L'ennemi intime. Je me disais mais c'est ça qu'on aurait dû me montrer, mais c'est un film qui est en trois parties. Il faudrait avoir 6 heures plus les débats, etc. Et donc voilà, dans un temps très court et avec en plus cet enseignement facultatif, je ne sais pas s'il est vraiment possible de plonger tête la première dans un sujet.
Qu'est-ce qui justifie d'ailleurs que cet enseignement soit facultatif, Raphaël Branche?
Alors moi, je suis ici un peu décalée, hein, parce que je n'appartiens ni à ceux qui fabriquent les programmes, ni à ceux qui les enseignent. Donc je vais répondre de manière un peu décalée à votre question, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une réflexion entre d'articulation hein, par rapport à ce que vous dites sur ce que on vous a enseigné à l'école il y a un certain temps. Ce qu'on enseigne, c'est les résultats de la recherche. Donc il faut que la recherche ait eu lieu, en fait, pour qu'on puisse enseigner. Alors dans le cas de la guerre d'Algérie, il y a un cas un peu particulier.
Bah, c'est pas si décalé que ça, finalement, votre réponse. Hein. Je trouve.
Il y a un cas un peu particulier qui est le programme de terminale qui n'est pas exactement optionnel, comme ça a été dit, programme général, de terminale général, qui n'est pas les mémoires de la guerre d'Algérie, qui est l'historien.
Oui,
on pourrait imaginer d'ailleurs l'historienne, ça serait pas mal.
Face aux mémoires.
L'historien et l'historienne et les mémoires. Donc ça pousse les enseignants à être dans une réflexivité, une réflexion sur la construction du récit historique, notamment dans son articulation avec les récits mémoriels. C'est absolument passionnant. Quand le programme est arrivé, il n'y avait aucun travaux de recherche quasiment sur le sujet. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de textes à ce moment-là pour accompagner les enseignants, parce qu'il n'y avait rien. Enfin, donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne choisissent pas, et je vais très souvent en terminale rencontrer des classes, ils ne choisissent pas ce programme, parce qu'aussi, ils ont beaucoup moins de choses pour se nourrir en tant qu'enseignants.
Et j'aurais juste. Donc, ce ne serait pas une forme de crainte qui pourrait exister, Yannis Roder, et après, je reviens vers vous, Raphaël Branche. Yannis Roder, pour expliquer le fait que cette option soit si peu finalement.
Alors ça m'est difficile de répondre parce que moi j'enseigne en collège. Preuve en est que je connais mal les intitulés de lycée. Non, mais vous avez raison de rectifier. Hein. Mais je sais que certains collègues font état de, non pas de réticence, mais de crainte, parce que ce que disait Raphaël Branche est très vrai, c'est-à-dire que la recherche avance sur ces questions, mais les enseignants manquent d'outils intellectuels, manque de connaissances précises, puisque l'histoire est en train de s'écrire, elle s'écrit en permanence de toute façon, mais c'est vrai qu'ils sont moins outillés que sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup de choses ont déjà été faites et où des grands historiens sont aujourd'hui des références extrêmement connues. Donc c'est se mettre en danger, si vous voulez, pour certains, que de choisir de traiter l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie.
Raphaël Branche.
Non, mais il n'y a aucun doute. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, j'entends souvent dans les académies et dans des plans de formation où les enseignants s'inscrivent pour avoir une formation précisément. Et donc, ce que j'ai comme ça, un peu de manière informelle, c'est ça. C'est leur crainte d'être pris au dépourvu par des interventions qui viendraient donc d'origines diverses, notamment familiales, dans les classes, et de ne pas savoir répondre, en fait, justement. Mais en même temps, c'est leur désir de pouvoir le faire et de savoir le faire. Donc, je trouve le programme est assez intéressant pour ça. Juste, on a, avec l'Office national des anciens combattants, en partenariat avec l'Éducation nationale, fabriqué une exposition sur la guerre d'Algérie et ses mémoires qui peut être demandée pour les collèges et les lycées, pour essayer justement d'accompagner les enseignants là-dessus, si certains veulent. Non, je voulais revenir, si je peux, sur cette question d'enseignement obligatoire, parce que je trouve que c'est très très compliqué cette histoire. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la recherche et qu'on me pose des questions sur est-ce que la guerre d'Algérie, on l'enseigne bien et j'ai assez évolué, en fait, je dois dire, sur la question, en me demandant si la question était pertinente, parce que là, j'en viens à me dire qu'il est peut-être plus intéressant d'apprendre à des enfants à comprendre un mécanisme, des structures, comment ça marche, c'est quoi une guerre, comment on entre en guerre, par exemple. Hein. C'est quoi la constitution d'un peuple, c'est quoi une identité nationale, c'est quoi un génocide, enfin voilà, quel que soit l'exemple, en réalité. Et que l'enseignant se sente plus à l'aise avec certains exemples plutôt que d'autres, parce qu'il y a un roman qui sort et qu'il y a un prof de français qui a aussi envie de le travailler. Finalement, je me dis, parce que sinon, je me dis que c'est peut-être plus intéressant que d'essayer de mettre la bonne recette, les bons ingrédients pour faire un bon citoyen ou un bon élève en termes factuels. Parce que c'est infini l'histoire, hein. C'est absolument infini. Donc effectivement, moi quand on me posait la question il y a 20 ans, je disais, ah bah oui, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ah. Voilà, il manque toujours quelque chose et c'est jamais assez, on n'a jamais assez d'heures, etc. Voilà.
Eh ben, j'aimerais entendre les réactions d'Alice Zeniter et de Yanis Roder sur ce que vous venez de dire, Alice Zeniter.
Non, je trouve ça, en fait, je
trouve ça très juste. Parce que votre livre, il est très documenté en même temps.
Oui, 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 mais je pense que l'avis de Raphaël me percute et me lance dans de grandes pensées intérieures, donc là je n'ai pas de réaction immédiate.
Yanis Roder.
Alors moi je suis assez sensible à ce que vous dites et à l'idée qu'effectivement il faille réfléchir sur des concepts, qu'il faille réfléchir en ouvrant les perspectives. Je suis tout à fait d'accord avec ça. À ceci près que nos élèves sont emplis de représentations, voire de préjugés, et que finalement notre devoir aussi c'est de rétablir les faits dans leur réalité, quoique bon voilà, l'histoire est mouvante et l'histoire s'écrit tous les jours, donc c'est difficile de le dire comme ça, mais néanmoins de resituer les choses dans les contextes, de les contextualiser, et je pense que pour la guerre d'Algérie, nous en avons réellement besoin. Je vais vous donner quelques exemples, j'en parle dans mon livre. Vous avez des élèves qui dès qu'on va aborder la guerre d'Algérie, se manifestent en disant « Ouais, on a mis les Français à la baille, on a mis les Français à la mer ». Bon, il faut peut-être rétablir les faits, et notamment l'idée que la victoire militaire a été une victoire du FLN ou de la LN. Vous voyez, donc ça doit être rétabli. Donc on peut effectivement faire ce que vous dites, et nous essayons de le faire, travailler, parce que j'ai des questions. Est-ce que la guerre d'Algérie, c'est un génocide? Et il faut répondre à cela. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Le président de la République en avait parlé. Les questions sont venues après. Donc il faut aussi répondre à cela, donc d'une manière assez générale, en recentrant peut-être sur ces questions de représentation qui envahissent un petit peu les esprits et peut-être parfois le débat.
Alice Zeniter, est-ce que vous avez été confronté à ces préjugés après la sortie de votre livre? C'est-à-dire, est-ce que ça a suscité des réactions, peut-être notamment d'incompréhension ou en tout cas de choses dont on pouvait peut-être vous reprocher d'avoir écrit seulement une partie de l'histoire de la guerre d'Algérie? Est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est manifesté ou pas du tout?
Non, je dois avouer que j'ai été plutôt épargnée. J'avais très peur de ça, puisque un des Un des problèmes avec la question de la guerre d'Algérie, de la transmission, de l'enseignement de la guerre d'Algérie, c'est aussi un endroit où peuvent se rencontrer, donc se télescoper des mémoires totalement différentes, et avec l'idée de vérité mutuellement exclusive. Et donc, je me disais que c'était forcément un terrain un peu dangereux sur ça. Je me souviens qu'une des premières radios que j'ai faites, c'était sur France Inter pendant la matinale, et un pied noir avait appelé pour dire c'est un livre que même les pieds noirs peuvent lire. Et comme si justement le fait que la parole soit donnée à une partie de la population touchée allait forcément exclure les autres, et que et ce type me donnait un passe-droit, enfin un blanc-seing comme ça, en disant c'est bon, ça marche aussi pour une autre communauté touchée avec une autre mémoire de la guerre d'Algérie. Mais je crois justement que si le livre peut être lu, ça rejoint ce que disait Raphaël sur l'idée aussi de réfléchir à des notions qui sont pas forcément rattachées à un endroit historique. C'est-à-dire, oui, une guerre et les représentations qu'on a sur une guerre, et le fait que par exemple il y existe des camps francs définitifs, que on choisit ces camps et que ensuite ces camps justement s'excluront toujours mutuellement, seront toujours ennemis, c'est quelque chose que le livre essaye de déconstruire en disant c'est beaucoup plus flou que ça. La question de la volonté, du libre arbitre dans un climat de survie économique d'abord puis de violence militaire est beaucoup plus fragile qu'on veut bien se l'imaginer, que même l'histoire de la philosophie et du sujet à la française veut bien se l'imaginer. Et donc peuvent coexister des récits différents qui ne sont pas ceux des uns contre les autres, mais d'un flou beaucoup plus partagé.
Yannis Roeder, quand vous abordez la guerre d'Algérie en cours avec vos élèves, vous leur apprenez quoi? Vous leur apprenez des dates? Vous leur apprenez des noms? Et puisqu'on parle d'une guerre, en général, une guerre, à la fin, il y a des vainqueurs et des vaincus. Vous leur dites quoi? Qui a gagné la guerre d'Algérie? Qui l'a perdue? Est-ce que c'est comme ça que vous abordez
la... Non, c'est pas comme ça que j'aborde la chose. D'abord, je...
Parce que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est a priori assez simple. Vous voyez?
Quoique. Mais non, pour la guerre d'Algérie, je crois d'abord, moi, qu'il faut prendre un peu de temps. Vous le disiez, les zénithaires, on manque de temps. Ça, c'est un véritable problème. J'en parle beaucoup dans mon livre. C'est toute la deuxième partie de mon livre sur justement les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants. Nous manquons de temps pour aller dans le cœur du sujet, pour travailler sur les documents d'archives, pour faire réfléchir les élèves, pour leur permettre de construire une pensée articulée autour de sujets qui sont extrêmement importants, et notamment les notions dont vous avez parlé, Raphaël Branche. Donc, je prends mon temps, voilà, moi je suis un prof, maintenant ça fait 20 ans que je suis en zone sensible à Saint-Denis, je prends mon temps maintenant, vous voyez, je peux me permettre de prendre mon temps. Et donc je remonte dans l'histoire et je leur fais l'histoire de la colonisation de l'Algérie et de la violence de cette colonisation. Je parle de ces sociétés coloniales, je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les discriminations dans la société coloniale. Et tout cela finalement est très peu ou mal connu des élèves. Et ensuite, quand il est question de la guerre d'Algérie, du processus qui commence après la Seconde Guerre mondiale, on essaye de décrire, j'essaye de décrire le plus objectivement possible en m'appuyant sur des documents, parfois en m'appuyant sur des films. Vous avez parlé de L'ennemi intime de Florence Siri, par exemple. Hein, c'est un film intéressant. On en étudie des extraits avec les élèves et ils sont très intéressés, hein, notamment cet extrait où on voit un monsieur, un Harki, donc qui est face à un monsieur du FLN, un combattant, un Felaga, un montant du, voilà, et ils se confrontent tous les deux avec ce combattant qui dit, voilà, tu vois cette cigarette qui est allumée des deux côtés, toi t'es au milieu, d'un côté c'est les Français, d'un côté c'est le FLN, et bien toi tu perdras à tous les coups. Et les élèves, ça les interpelle beaucoup, cela, en plus c'est en langue berbère, alors ça leur parle beaucoup à mes élèves, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça questionne justement. Et je crois qu'il faut partir de ces questions pour essayer de faire réfléchir les élèves et de construire une pensée, de construire des éléments de réflexion sur la guerre d'Algérie, non pas en étant définitif celui-ci a gagné, celui-ci a perdu, mais de comprendre quels étaient les processus et pourquoi ces processus ont été à l'œuvre à ce moment-là.
Alors les historiens et les enseignants n'ont pas attendu les politiques pour faire tout un travail, bien entendu, sur cette question de la guerre d'Algérie, mais est-ce que des déclarations, par exemple comme celle d'Emmanuel Macron à propos de Maurice Audin et puis de la torture érigée en quasi-système pendant cette guerre, est-ce que le fait de décorer d'anciens combattants harkis, est-ce que ça peut aider justement à avoir un enseignement de la guerre d'Algérie, même si vous disiez, Raphaël Branche, que vous considériez que c'était pas forcément de manière spécifique qu'il fallait le faire. Mais en tout cas, est-ce que ça peut aider, au moins en tout cas, les historiens à faire un travail qui soit mieux accepté peut-être par l'ensemble de la population? Ou bien est-ce que finalement ça n'est que c'est un peu tardif pour vous?
Alors, en fait, c'est une question hyper compliquée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des discours des responsables politiques sur le passé? Voilà, beaucoup d'historiens ont jugé que c'était pas leur travail. Il fallait laisser aux historiens le soin de parler du passé, aux romanciers, aux artistes, mais pas. Bon, bref. Là, on est dans un cas un peu différent.
Ils ont un impact.
Voilà, là, on est dans un cas un peu différent, c'est-à-dire que c'est une parole politique aujourd'hui. Enfin, en fait, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aujourd'hui, le président de la République met fin à un mensonge d'État. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on vivait avec une parole officielle qui mentait. Donc, ça, c'est vraiment essentiel, mais il me semble que c'est essentiel pour les citoyens et pour la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce que l'État dit aujourd'hui assumer, hein, assumer que voilà, si on veut prétendre être le pays des droits de l'homme, et ben il faut regarder son passé, être capable de dire au moment où, les moments où on a failli. Pour le travail des historiens, franchement, ça change rien, à part évidemment la ligne de la déclaration sur les archives, on pourra en reparler. Mais sinon, la vérité politique là qui est exprimée est une vérité absolument consensuelle dans le monde des historiens depuis très longtemps. Donc c'est pas le chef de l'État est pas en arbitre d'une vérité contre une autre. Non, non, au contraire, voilà, il donne un sens politique à une vérité historique reconnue depuis longtemps. Qu'est-ce que ça changera dans l'enseignement? À mon avis, pas grand-chose non plus, si ce n'est que ça sera un élément qu'on apprendra dorénavant. C'est-à-dire que je crois que ça va rentrer dans les manuels d'histoire dès qu'on en refera des nouveaux. C'est-à-dire que l'État français a enfin reconnu qu'il avait couvert ce genre de crime.
Je vous vois acquiescer, Yanis Roder, sur le fait que ces faits-là vont entrer dans les manuels.
C'est une évidence, hein. Dès les prochaines éditions, vous aurez les déclarations du président Macron et ce qui a été, ce dont on a parlé. C'est une évidence, oui.
Vous avez évoqué les précautions, hein, d'usage du mot harki en début d'émission, Alice Zeniter, mais manifestement, par rapport à ce que j'ai pu lire pour préparer cette émission, c'est justement sur la question des harkis qu'il y a peut-être aujourd'hui le travail le plus important à faire. Qu'est-ce que vous avez, vous, par exemple, ressenti quand vous avez appris, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'important pour vous ou pas du tout, mais que justement d'anciens combattants allaient être promus dans la Légion d'honneur et dans l'Ordre national du mérite? Est-ce que c'est aussi ce genre de gestes-là qui peuvent permettre une meilleure transmission de ce qu'a été la guerre d'Algérie?
Moi, personnellement, je crois pas. Et je dois avouer que ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Parce que je pense que je vois aussi, la chose d'un point de vue d'écrivaine. Et ce que je vois toujours, c'est le récit qui a été rentré dans la gorge pendant des décennies. Et finalement, que quelque chose arrive, qu'une décoration militaire, qu'une reconnaissance, etc., arrive, je pense, évidemment, j'imagine bien que c'est très important pour certains de ces hommes qui vont la recevoir. Mais qu'est-ce que ça change au trou dans le verbe quand cette histoire s'est écrite? Ben pas grand-chose. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse plutôt à ça que à ce qui peut arriver aujourd'hui, tard, et sous cette forme de reconnaissance officielle qui n'est pas un passage de la parole, qui est encore l'État qui prend la parole pour dire à ces hommes, maintenant nous vous reconnaissons, mais ça n'est pas la parole qui est donnée à ceux qui se sont tus.
Alors là, je vais vraiment m'adresser à l'écrivaine. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question ou pas, parce que peut-être que ça mérite un petit peu de réflexion. Mais moi, je me suis dit, justement, en apprenant ça, j'ai repensé à une des scènes de votre livre, une scène assez courte, silencieuse, extrêmement forte, où Ali, donc le grand-père qui a dû quitter son pays, un jour se lève de son fauteuil, il prend toutes les décorations qu'il a comme ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et il les jette. C'est quelque chose dont il est extrêmement fier. À un moment donné, il les jette. Je me disais, qu'est-ce que le grand-père Ali aurait pensé, justement, de ce geste d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette reconnaissance assez tardive à travers la Légion d'honneur d'anciens, lui n'a pas été combattant, mais enfin en tout cas de ceux qu'on appelle les harkis?
Alors, j'en ai aucune idée. Et vous remarquerez que dans le livre, la scène où Ali jette ses médailles, elle n'est pas expliquée de son point de vue à lui. Il n'y a pas de narration intérieure à ce moment-là. Elle est commentée par trois des enfants qui tentent de fournir une explication. Les explications sont contraires. Et ça vient du fait que, en fait, ça fait partie des quelques bribes de récits que j'avais eues. Je sais que mon grand-père est venu avec ses médailles et qu'à un moment donné, il les a jetées. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Et quand je parlais aussi de ce rapport à la parole et de qui parle, j'aurais été gênée d'imaginer là quelque chose, de plaquer un récit sur ce geste de mon grand-père que je ne comprends pas, qui me demeure incompréhensible et donc que j'ai donné comme étant incompréhensible en fait. Ça reste un mystère et donc je ne sais pas ni par rapport aux décorations passées ni sur ces décorations futures ce que Ali a pensé ou penserait.
Raphaël Branche.
Alors moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle y pense.
Non, c'est pas forcément pour.
Non, mais en l'occurrence, depuis 2003, il existe une journée nationale d'hommage aux harkis qui se trouve demain. Et là où, effectivement, les mots historiques ont perdu, hein, c'est que maintenant on parle des harkis, effectivement, pour désigner l'ensemble des gens qui ont été liés à la France, et certainement pas dans le camp de la France, ou certainement pas aimant la France. Pour certains, c'est le cas, bien sûr, mais liés à la France et pour ce lien, se sont sentis en danger et se sont réfugiés en France. Donc, la journée d'hommage, elle disait ça. Elle disait, la République, l'État reconnaît cette spécificité de votre cas. Parce qu'il existait déjà une journée commémorative pour la guerre d'Algérie. On a créé à côté, ce qui est vraiment très, très bizarre en même temps, hein, pour cette catégorie de personnes... désigné sous le mot de harki, cette journée d'hommage en 2003. Et puis depuis, on a une politique en fait de réparation. Depuis des décennies maintenant, on répare comme si on avait... Et on répare sans fin. Enfin, c'est un tonneau des Danaïdes. Hein. On ne pourra jamais, évidemment, on ne pourra jamais rendre la maison. Enfin voilà, donc c'est quelque chose d'assez... je trouve pas le mot triste, dérisoire et en même temps essentiel pour les personnes sans doute qui reçoivent. C'est compliqué cette question de la reconnaissance et de la médaille parce que effectivement elle est pas là simplement pour décorer les 20 personnes ou les 40 personnes. Elle est évidemment là pour tous ceux qui ne sont plus là aussi. Enfin voilà, on a une dimension de symbole qui est tentée hein, par ce geste qui en même temps, bah, c'est comme ça en France, on décore des individus, donc on ne va pas décorer autre chose. Mais voilà, donc il y a, je pense là, une espèce de tension. Et puis tout ça dans un contexte beaucoup plus global, de demande de réparation, je le disais, mais y compris de réparation financière, hein, d'aide, de soutien, de secours, hein, qui sont apportés dans toutes ces politiques par la France depuis longtemps déjà, aux harkis et à leurs enfants.
Yannis Roeder, je ne sais pas si vous avez cours demain avec vos élèves, mais ce sera donc la journée nationale d'hommage aux harkis. Si vos élèves vous interpellent, vous demandent justement de leur en parler.
Alors admettons que ce soit le cas, ça ne le sera pas, mais parce qu'ils ne le sauront pas que c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. C'est très difficile d'en parler à partir du moment où finalement les connaissances sont extrêmement réduites, diffuses, et qu'ils sont surtout sur des représentations. Vous savez, c'est comme les injonctions, on va lire la lettre de Guy Moquet, etc. Ça tombe complètement à côté de la plaque, ça n'a pas de sens si vous voulez. Pour donner du sens à l'enseignement, il faut d'abord enseigner les faits et faire réfléchir les élèves sur les faits et les processus. Non, ce que je voulais dire sur la question des harkis, moi, je me suis interrogé en tant que professeur sur le terrain sur la portée du geste d'Emmanuel Macron, justement, parce que quand vous traitez de la guerre d'Algérie en classe, les harkis, si vous voulez, reviennent tout le temps, systématiquement.
De quelle manière ?
Bah, pour une partie des élèves qui en parlent, enfin ceux qui en parlent en fait, ce sont les traîtres. Les harkis, ce sont les traîtres, voilà.
Et donc, c'est toujours le vocabulaire algérien officiel.
Voilà, c'est donc ils se font le relais du vocabulaire algérien officiel. En effet, c'est extrêmement frappant. Et d'autre part, dans la mémoire française, dans les mémoires françaises finalement, et dans ce qui circule, je trouve que, en tout cas pour mes élèves, les harkis sont totalement invisibles, ils n'existent pas. Et donc vous avez cette représentation à la fois qui vient finalement d'Algérie et puis cette invisibilité dans la mémoire ou dans les mémoires françaises. Et vous avez par exemple cet élève qui voulait absolument qu'on enseigne la guerre d'Algérie, alors on a fait la guerre d'Algérie sur le programme, et qui à la fin du cours, il s'appelle Rami, ce jeune garçon, et il vient me voir, il me dit « Monsieur, est-ce que je peux vous dire quelque chose à l'oreille ?» Je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il se penche vers moi en attendant que tout le monde ait quitté la salle, il me dit « mon grand-père était harki. Je dis, ah bon? Et j'ai honte, monsieur. Et j'ai senti le... Voilà, il y avait quelque chose de très fort dans ce qu'il me disait, il se confiait à moi, il était extrêmement ému, et en même temps, il a ajouté, j'ai honte. Ça veut dire que, aussi, il est dans un... Il vit dans un milieu, à Saint-Denis, avec ses copains, avec où l'image du harki est nécessairement négative. C'est le traître, effectivement. Et ce gamin était en souffrance. Alors je me suis posé la question, je reviens à la question du début, enfin ce que j'ai posé au début, c'est-à-dire, est-ce que le geste symbolique d'Emmanuel Macron va faire du bien à cet enfant? Voilà. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais peut-être que les harkis seront peut-être moins invisibles.
Et on peut justement se poser la question de la façon d'enseigner la guerre d'Algérie, si un des objectifs, au-delà justement de la manière de s'y prendre, ça peut être de répondre aux souffrances dont on voit bien quand même qu'elles sont encore extrêmement vives dans une partie de la population, Raphaël Branche.
Mais là, on demande beaucoup à l'école quand même. Hein.
Ah oui, et pas que là-dessus en plus. Hein.
Voilà, je pense qu'en fait, le succès du roman d'Alice Zénithère, le fait qu'il soit Goncourt des lycéens, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, ça dit évidemment la qualité du livre, mais le fait que ce soit celui des lycéens, moi, ça m'a beaucoup émue, parce que je trouve que le roman est compliqué, long, et complexe, vraiment, touche à des choses très subtiles. Et il se trouve que moi, je suis allée l'accompagner aussi, ce livre... j'ai été invitée dans des classes de lycéens qui l'avaient lu aussi. Donc on peut tout à fait, en tout cas en terminale, on peut tout à fait aborder des choses de manière très complexe et subtile et fonder quelque espoir sur les plus jeunes. Oui. Mais pas qu'avec des livres d'histoire, avec des romans, heureusement, qui sont là, et des bandes dessinées, des films. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'ailleurs les lycéens qui ont lu votre livre et qui vous ont remis le prix? Parce que j'imagine que vous en avez rencontré un certain nombre, Alice Zénithère.
Oui, j'en ai rencontré beaucoup. Après, ça, ce sont des rencontres qui se passent très vite. Et puis, en fait, c'est extrêmement difficile. J'écris un livre en disant que qu'on a tendance à utiliser des termes et à généraliser trop, et que on devrait arrêter de dire les harkis. Je peux pas non plus dire les lycéens. J'ai rencontré des jeunes qui étaient extrêmement différents, venus de milieux différents, de villes différentes, avec des rapports totalement différents à la lecture. Et c'est impossible, enfin, de résumer
mais qui avait le sentiment quoi d'apprendre des choses, de voir les choses autrement. Est-ce que ça, ce sont par exemple c'est ce type de témoignage que vous avez pu...
Je crois que la question de la transmission est très importante. Enfin, l'idée aussi que un être humain n'est pas une monade. Enfin, qu'on arrive toujours de quelque part. L'idée que il y a une éducation qui paraît même invisible parfois par des gestes, par des inflexions. Qu'on prend des plis qui nous forment, et qu'on est aussi le résultat des générations passées, de l'histoire des générations passées, et qu'au moment de se déterminer comme adulte, qui est un peu ce moment où sont les lycéens, de tout à coup pouvoir suivre une histoire dans un cadre plus large, et qui pour le coup, enfin, est un cadre tellement large qu'il passe de l'autre côté de la Méditerranée avec des trajectoires migratoires, c'est quelque chose qui évidemment les interroge et les ramène à eux et à quelle est leur liberté possible dans tous ces contextes-là, le contexte familial, le contexte social, le contexte historique, et ils sont pas libres de ça. Enfin, il faut qu'ils se débattent avec ça pour gagner de la liberté.
Un dernier mot, Yannis Sorodard, dans votre livre, vous expliquez que vous considérez que les élèves doivent être des chercheurs dans l'enseignement de l'histoire. Qu'est-ce que vous les incitez à chercher justement sur cette question précise qui nous occupe ce soir, à savoir la guerre d'Algérie?
Justement, à travailler sur le processus. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette volonté d'acquérir l'indépendance? Qu'est-ce qui a fait que des populations, une population a voulu être celle qui gère son propre destin, et donc travailler sur des documents d'archives, leur faire croiser les sources, utiliser plusieurs supports, c'est ça, les mettre dans la démarche de construire un raisonnement historique, et donc de construire une pensée articulée, encore une fois.
Et bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, Raphaël Branche, Yannis Roder et Alice Zénithère. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est évidemment sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Vincent Deck avec à la prise de son Élise Le. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour la dispute. Demain, nous poserons la question suivante dans Du Grain à Moudre. Comment cohabiter avec les toxicomanes? Tout de suite à 19h, c'est l'heure du rappel des titres avec Aurélie Kiefer.